carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Hélène Tromparan de Seine, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir ici au Musée national de la Marine, où vous êtes conservatrice ici au musée, et puis également l'une des commissaires de l'exposition La Pérouse. Justement, pourquoi elle a lieu aujourd'hui ?
Alors, l'exposition s'imposait aujourd'hui puisque de nombreuses découvertes ont été faites dans les 20 dernières années grâce à l'activité de l'association Salomon basée à Nouméa, qui a attiré à nouveau l'attention sur le site de Vanikoro et qui a organisé des fouilles avec l'aide d'archéologues professionnels et notamment d'archéologues du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines du ministère de la Culture et également avec le soutien de la Marine nationale en 2005. Et donc cette association ayant découvert énormément d'objets, de nouvelles choses, il était vraiment important de pouvoir montrer ces éléments au public européen essentiellement.
Avec des expéditions en 99, en 2003 et puis là la dernière en 2005. Et là je crois qu'ils repartent une nouvelle fois.
Il y a une expédition en effet qui est planifiée là pour le mois de mai 2008. On souhaite évidemment de nombreuses découvertes aux archéologues qui partent cette fois-ci.
Alors en attendant de les voir revenir avec de nouveaux objets, je vous propose de parcourir en votre compagnie l'exposition ici, La Pérouse. Commençons par le personnage à La Pérouse. Lorsqu'on lui demande de faire cette expédition, il a déjà 28 ans de navigation derrière lui alors qu'il n'a que 44 ans.
Oui, il est rentré aux gardes de la marine, comme on dit à l'époque. C'est l'école en fait des officiers de marine, celle de Brest. Il est rentré là à l'âge de 15 ans. C'est un albigeois d'origine, il est né à Albi. Et il embrasse la carrière maritime donc très jeune, comme c'était l'usage au XVIIIe siècle. Et il est choisi par le roi lui-même pour mener cette expédition de découverte autour du monde en 1785 en raison de sa grande compétence de marin dont il a fait preuve notamment pendant la guerre d'Amérique qui vient de se terminer au profit de l'indépendance américaine.
Alors cette expédition, c'est la poursuite des expéditions de Cook. Je suppose qu'il y avait encore une grande concurrence entre les Français et les Anglais.
Oui, on était vraiment dans un contexte de rivalité franco-anglaise. Alors la paix était revenue en Europe et sur les mers, donc c'était le moment idéal en 1785 de vraiment lancer quelque chose, un programme de recherche, un programme scientifique, mais également une expédition à vocation économique pour essayer de découvrir de nouvelles terres, de compléter le travail que Cook avait mené dans tout le Pacifique pendant ses trois voyages jusqu'en 1779, et donc de vraiment mettre la France sur un pied d'égalité avec l'Angleterre. C'est pour ça qu'on a mis énormément de moyens dans les préparatifs de cette expédition menée par La Pérouse.
Avec l'Académie royale des sciences, également l'Académie royale de la marine, et puis le Jardin des plantes.
Oui, les académies ont été sollicitées pour donner des instructions et des programmes scientifiques aux scientifiques embarqués. Mais en réalité, lorsqu'on étudie de près tous les documents, comme l'a très bien fait Catherine Gaziello, qui a écrit un très bel ouvrage sur l'expédition La Pérouse, on se rend compte qu'en fait, le premier objectif de cette expédition, c'était un objectif économique. On voulait établir du commerce, des comptoirs commerciaux, on voulait prospecter, notamment sur les territoires d'Amérique du Nord-Ouest, pour essayer d'établir ces comptoirs de traite des fourrures. Et également, on voulait espionner les colonies des puissances européennes sur ces territoires, les Espagnols, les Anglais. Donc ça, c'est le premier objectif, cet objectif économique, cet objectif politique également. Et on greffe à ces objectifs des objectifs scientifiques de recherche qui vont prendre le pas finalement au niveau prestige pour représenter cette expédition. C'est pour ça qu'on fait appel aux académies pour donner des instructions précises donc aux savants qui seront embarqués.
« Alors, nous sommes ici dans une pièce particulière, avec des documents, j'imagine, exceptionnels, des cartes qui sont conservées à une température précise, avec une lumière atténuée. Quelles sont ces cartes ?
Alors, nous avons dans l'exposition la chance de présenter les cartes conservées par Louis XVI. C'est la carte préparatoire au voyage de la Pérouse, dressée d'après les instructions données par Fleurieu, qui était le directeur des ports et arsenaux à l'époque, un membre de l'Académie royale de marine également, et qui avait fait le trajet de ce voyage dans le Pacifique. Le roi Louis XVI donc, a reçu un exemplaire de cette carte du Pacifique en 3 feuilles, qui est donc présentée dans l'exposition, et qui montre l'itinéraire prévu pour cette expédition, la Pérouse, mais également l'itinéraire réellement suivi. Donc en noir sur la carte, on voit l'itinéraire prévu. Et la Pérouse avait une certaine latitude d'organisation en fonction des saisons, du retard ou de l'avance qu'il aurait. Et donc il a légèrement changé son itinéraire. Et l'itinéraire qu'il a réellement suivi a été tenu à jour sur la carte du roi, à la demande du roi lui-même. Et c'est l'itinéraire que l'on voit en rouge sur cette carte.
Et alors j'imagine que sur cette carte, tous les contours des continents n'apparaissent pas forcément.
Alors à l'époque, on ne connaît pas encore en effet tous les continents et toutes les îles du Pacifique. Beaucoup sont encore mal positionnés, bien que Cook ait mené un travail énorme dans ce domaine. Et notamment pour ce qui est de l'Australie, à l'époque la Nouvelle-Hollande, on n'a pas encore défini la différence entre Tasmanie et Australie. Par exemple, on le voit très bien sur la carte. On pressent qu'il y a sans doute un détroit, un passage, mais il ne figure pas puisqu'il n'a pas encore été cartographié. C'est un simple exemple, mais la carte de l'Amérique du Nord-Ouest, par exemple, est encore aussi très peu précise. La côte de Sibérie n'est pas encore dessinée. L'île de Sakhalin n'est pas bien non plus connue. Et donc la Pérouse a un programme immense. Il doit compléter cette carte du Pacifique pour un voyage qui va durer environ 4 ans.
C'était aussi l'objectif, 4 ans, avec un embarquement et des vivres nécessaires pour 4 ans, enfin, j'imagine.
Oui, tout à fait. On avait prévu les vivres nécessaires en fait, pour une durée de 3 ans, en pensant qu'on pourrait, pendant le temps du voyage, se fournir en route, notamment de vrais vivres frais, parce qu'il était impossible, évidemment, d'emmener pour 4 ans de vivres frais. Et c'est la raison pour laquelle la Pérouse emmenait 4000 piastres d'argent espagnol pour pouvoir, dans les colonies portugaises, espagnoles, acheter des vivres. Et également, il embarquait des marchandises d'échange qui sont présentées aussi dans l'exposition, verroteries, outils en fer, casques de dragon, pour plaire aux populations locales des zones non civilisées qu'il allait traverser et pouvoir donc faire des vivres frais.
Alors justement, je vous propose de nous avancer jusqu'à ces objets qui sont présentés en grande partie ou peut-être même dans leur totalité ici au sein de cette exposition.
Alors nous avons toutes les catégories d'objets qui sont représentés, mais bien plus d'objets ont été découverts dans les fouilles. Nous n'avons qu'un échantillonnage bien sûr dans l'exposition parce qu'on n'aurait pas pu abriter tous les objets découverts.
Alors 2 bateaux sont prévus pour embarquer pour cette expédition.
Oui, l'Astrolabe et la Boussole. La Boussole, c'est le navire dédié à la Pérouse. Et Fleurieu de Langle, qu'il choisit pour être son second, le second de l'expédition, et qui est donc nommé par le ministre et par le roi à cet effet, va lui embarquer à bord de l'Astrolabe, dont il surveille l'armement, le chargement au port de Brest.
Alors, ils sont très nombreux à embarquer, 200, voire même 220.
Oui, il y a 113 hommes à bord de chacun des navires. Et en tout, répartis sur les 2 navires, une 15aine de scientifiques de toutes spécialités, physiciens, naturalistes, minéralogistes, mais également astronomes, une profession très importante pour la navigation à l'époque, comme on va le voir un peu plus loin.
Parmi les objets qu'ils embarquent, si nous avançons un peu plus loin au cours de cette exposition, alors bien sûr, vous évoquiez les pièces, les pilastres, mais également les casques. Et puis, alors chose peut-être un peu plus originale, ce sont de sortes de boîtes à musique.
Oui, alors il y avait à bord 12 serinettes. En fait, ce sont des petits orgues de Barbarie qui jouait certains airs, notamment l'air de Malbrook s'en va en guerre, qui, dit-on, était sifflé, chanté par les populations du Pacifique, puisque on leur en avait apporté des échantillons. Alors ces objets servaient à la fois à entraîner les hommes du bord, mais également à plaire aux populations locales. Et nous avons la chance de pouvoir présenter un de ces instruments d'époque, pas l'un de ceux qui figuraient dans les fouilles, puisque comme c'est en bois, évidemment, ça n'a pas été conservé, mais c'est un instrument de comparaison et de référence.
Parmi la monnaie d'échange, nous sommes passés devant d'immenses plaques de plomb. C'était aussi une monnaie d'échange pour les indigènes.
Tout ce qui était matière première servait à l'échange. Et là, donc, ces plaques de plomb servaient également pour réparer les navires. Et on pouvait en échanger des morceaux, puisque les indigènes ne connaissaient pas le métal, notamment en Océanie, beaucoup en Océanie, hein, donc dans le Pacifique Sud. Et on avait également énormément d'outillages en fer, hein, et même du fer en barre, hein, c'est-à-dire du fer juste brut, qui était là pour pouvoir être transformé à la demande et aux besoins des populations que l'on rencontrait.
Donc en 1785, on part de Brest.
Oui.
On part du port de Brest.
Le port de Brest est le port de départ. Les deux navires ont été préparés à Brest. L'un des deux, la Boussole, en fait, a été un peu transformé à Rochefort, mais ensuite a été amené à Brest pour pouvoir être préparé pour le départ. Ces deux navires, c'était des flûtes, c'est-à-dire des bâtiments de charge, de transport. Ce n'étaient pas des bâtiments très prestigieux. Hein. Ils faisaient environ 40 mètres de long, mais ils étaient très adaptés pour un voyage comme celui-là, puisqu'ils avaient donc une bonne capacité de cale et permettaient d'emporter beaucoup de marchandises d'échange, de vivres et toutes sortes de rechanges pour réparer les navires en cours de route.
Entrons dans la vie même du bateau. Il y a plusieurs, scènes représentées en quelque sorte. Il y a une bibliothèque sur notre droite. À gauche, il y a, j'imagine, la chambre...
D'un membre de l'état-major ou d'un des scientifiques. Nous avons voulu, dans l'exposition, évoquer les espaces de vie et notamment ce qu'on appelle la grande chambre, qui se trouve donc à l'arrière de chacun des navires et qui est l'espace de commun partagé par les officiers et également par les savants embarqués. Donc il y a une table que l'on voit ici dressée comme pour le repas avec la vaisselle retrouvée dans les fouilles. Donc c'est assez émouvant puisqu'on a des éléments complets, des bouteilles de vin, des bouteilles sans doute des carafes à eau et également toutes ces vaisselles d'étain ou de porcelaine ou de faïence utilisées quotidiennement à la table de cet état-major scientifique et marin. Donc ce sont des éléments qui ont été trouvés complets parce qu'ils ont été préservés par le corail qui a lentement recouvert l'épave de la Boussole dans la faille à Vanikoro, l'île où les deux navires ont fait naufrage.
Sur votre droite, on peut voir une bibliothèque avec des ouvrages, par exemple, du naturaliste Buffon.
Oui, l'expédition emportait tout Buffon, hein, tout ce que Buffon avait publié en 1785, et emportait également l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, complète, mais également aussi tous les livres de voyage existants, tous les ouvrages de Cook, en version anglaise, en version française, tous les ouvrages de référence, finalement, qui pouvaient servir à se repérer et à comprendre ce que d'autres avaient traversé avant l'expédition La Pérouse. On avait également à bord le traité des horloges marines de Ferdinand Berthoud, qui permettait de s'occuper en quelque sorte des 5 horloges embarquées. Ces horloges marines servaient en fait à calculer la longitude et donc à positionner correctement chaque navire et les cartes que l'on pouvait dresser à bord pendant le voyage.
Il y avait deux méthodes pour calculer. Il y avait
les horloges marines, ces calculs faits grâce à l'heure donnée par les horloges marines qui gardaient en fait l'heure du lieu de départ pendant tout le voyage. Donc il fallait vraiment les surveiller pour vérifier si elles étaient restées précises, si elles n'avaient pas de décalage, pour pouvoir faire chaque fois ce calcul de décalage horaire. Et la deuxième méthode qui avait été mise au point à peu près en même temps dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, c'était la méthode astronomique par le calcul des distances de la Lune au Soleil à l'aide à bord de sextants, de cercles de Borda, dont on présente les vestiges retrouvés par les archéologues à Vanikoro, mais également ces calculs pouvaient être faits chaque fois qu'on faisait des escales dans un observatoire dressé à terre avec des instruments d'observatoire qui avaient été prêtés par l'observatoire de Paris et dont on a retrouvé de nombreux fragments, notamment le quart de cercle de Langlois qui est présenté ici. On voit son limbe complet ainsi que de nombreux éléments marqués Langlois. Et ça, cet instrument avait été prêté à l'astronome de l'expédition Le Pot d'Agelet, membre de l'Académie des sciences. Et nous avons, pour montrer au public à quoi ressemblait vraiment cet instrument, emprunté un instrument à l'Observatoire de Paris, un instrument du XVIIIe siècle, signé Langlois, mais qui, lui, n'est pas parti avec la Pérouse, donc il est resté complet.
Et ces instruments qui ont été prêtés par l'Observatoire de Paris, justement, vous aviez retrouvé des commandes.
Oui,
vous aviez donc la
toutes
preuve.
les listes sont conservées aux archives nationales. Et donc ces listes ont permis aux archéologues, évidemment, de vérifier leurs trouvailles et de pouvoir confirmer chaque fois un peu plus qu'on était bien en face des vestiges des navires de la Pérouse. Parce qu'évidemment, il y avait toute une problématique de recherche. Cela a permis également d'identifier chacun des deux navires lors des fouilles les plus récentes. Et c'est présenté également dans une partie de l'exposition qui vient en fin d'exposition.
Venons-en aux escales. Alors, il y a eu bien sûr de nombreuses escales.
Dès l'Atlantique, à Tenerife, oui, voilà. Premières escales à Madère, à Tenerife. Et à Tenerife, c'est la première fois qu'on dresse l'observatoire à terre, justement, pour vérifier la latitude, la longitude, également vérifier la marche des horloges qu'on a embarquées. Et puis ensuite, on traverse l'Atlantique pour aller jusqu'au Brésil, dans une escale de Sainte-Catherine, l'île de Sainte-Catherine. La Pérouse ne s'y attarde pas. En fait, il cherche à faire surtout des provisions de vivres frais. Et il passe le Cap Horn très rapidement après, au tournant de l'année 1785-1786, puisqu'il est parti le 1er août 1785, pour arriver jusqu'au Chili, à la Conception, donc colonie espagnole, où il se fournit en grains, puisqu'on a épuisé les provisions de grains déjà emmenées depuis Brest. Ensuite, on va traverser une bonne partie du Pacifique, l'île de Pâques,
oui.
Hawaï. On y fait des escales très courtes.
Avec d'ailleurs une petite gravure qui est assez sympathique, où l'on voit justement
la vue de l'île de Pâques.
La vue de l'île de Pâques. Et puis alors une scène de genre, j'allais dire, où nous avons ces explorateurs qui accompagnent la Pérouse, qui se font subtiliser
leur chapeau,
leur mouchoir. Et beaucoup d'humour dans cette gravure.
Tout à fait. D'ailleurs, la Pérouse, dans son journal, que nous conservons là aussi aux Archives nationales, puisqu'il a fait 3 envois de documents pendant le voyage et ces documents sont aujourd'hui aux Archives nationales. Le dessin dont on parle là est en fait, lui, au service historique de la Défense, là aussi fonds d'archives, mais du ministère de la Défense, puisque tout ce qui était document graphique a été remis à ce service. Et donc, on y voit eh bien, le chapeau en train d'être volé et puis également les fameuses statues de l'île de Pâques, les Moai, qui sont dessinées par le peintre de l'expédition, Duché de Vancy.
Et l'histoire veut que la Pérouse donne, je crois, une série de cochons ou de chèvres.
Alors, chèvre, la Fleuriot de Langle, en effet, remet une chèvre, un bouc, à ces populations très déshéritées. D'ailleurs, la Pérouse s'est arrêtée pour vérifier ce qu'en a déjà dit Cook et puis d'autres avant lui. L'île de Pâques a été découverte en 1722 par Ogven, qui donc l'a appelée l'île de Pâques parce que c'était le jour de Pâques. Et on a constaté dès cette époque que c'était une population très déshéritée parce que l'île était déboisée complètement. Donc la Pérouse apporte des graines. Le jardinier de l'expédition plante des graines potagères apportées depuis l'Europe pour essayer d'apporter quelque chose à ces populations démunies.
Justement, quand vous expliquez ceci, peut-être faut-il préciser aussi que c'est un voyage humaniste, puisqu'on aurait pu penser justement qu'il y avait une notion de colonialisme qui allait avec, et d'arriver en terrain conquis et de ne pas forcément aider ces populations.
Alors, il y a vraiment un objectif humaniste qui est dit vraiment par le roi dans ses instructions. Il ne faut pas verser le sang, bien sûr, le sang des indigènes, des autochtones qu'on va rencontrer. Il faut essayer de les aider par tous les moyens. Et la Pérouse ne prend jamais possession des terres qu'il découvre, parce qu'il va en découvrir un certain nombre. Il n'en prend pas possession au nom du roi. On est là vraiment au siècle des Lumières. Donc les philosophes sont passés par là. Il y a vraiment toute une approche qui est beaucoup plus humaniste qu'elle n'a pu l'être auparavant, ou qu'elle ne le sera même au 19e.
Et pourtant, Cook, lui, quelques années auparavant, a bien été assassiné. Donc il y aurait pu avoir justement une inquiétude lorsqu'on arrive comme ça en pays inconnu.
Alors il y avait une inquiétude et il y avait également des précautions qui étaient prises, parce qu'on savait que de grands risques étaient pris par ces navigateurs. On rencontrait des populations qui, parfois, n'avaient jamais vu un Européen, avec qui les contacts n'étaient pas forcément évidents. Il fallait documenter leur langue, qui n'était pas encore connue. Alors, Cook avait beaucoup aidé pour ça. Donc, la Pérouse, ça c'était énormément des ouvrages de Cook. Mais il y avait ce risque, et on avait à bord des troupes, des hommes de troupes embarqués, des troupes de marine qui étaient là pour, à chaque descente à terre, pour protéger les membres de l'expédition en cas de problème, et surtout pour ne pas verser le sang, c'est-à-dire pour limiter les problèmes, sans forcément faire usage de leurs armes. Alors nous sommes là à l'escale du port des Français.
Oui.
C'est cette baie magnifique que la Pérouse a découverte sur la côte d'Alaska et qui s'appelle aujourd'hui l'Ituya Bay. C'est une très longue escale de presque un mois. Et là, la Pérouse met en œuvre un certain nombre des instructions royales, c'est-à-dire qu'il va faire collecter par Dufresne, l'un des naturalistes de l'expédition, de nombreuses peaux de loutres de mer. Et ils vont connaître ici leur premier drame, puisque 21 marins vont être noyés lors d'une petite expédition de reconnaissance hydrographique à bord de deux chaloupes. Et là, ça va être vraiment quelque chose qui va énormément marquer aussi bien les membres de l'expédition La Pérouse que les gens en France. À l'époque, puisque la nouvelle en parviendra assez rapidement après. Assez rapidement pour l'époque, c'est plusieurs mois quand même, puisque ce drame survient en juillet 1786 et que la nouvelle en est connue en France en mai 1787. Et c'est diffusé dans la presse. On en voit ici l'extrait dans les nouvelles de la République des Lettres et des Arts. On raconte ce drame qui a coûté donc la vie à 21 personnes.
Et il faut préciser, comme vous me l'avez précisé avant d'enregistrer ce sujet, que justement c'était une affaire qui était très médiatique pour l'époque. Elle a été suivie par les journaux.
Les journaux suivaient les déroulements et les avancées de ce que la Pérouse renvoyait, puisque des nouvelles étaient renvoyées régulièrement et des documents, ces documents que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à la prévoyance de la Pérouse et aux ordres qu'il avait reçus aussi que nous les avons, puisqu'il en a renvoyé à trois reprises, depuis Macao, également depuis le Kamchatka, une escale donc extrême-orientale en Russie, extrême-orientale, et également depuis l'Australie à travers les Anglais.
Venons-en à cette loutre et des peaux de loutre qui sont échangées.
C'est un animal qui peuple encore un peu aujourd'hui les côtes du nord du Pacifique, un animal amphibie que la Pérouse doit observer et surtout il doit essayer de voir si on pourra en faire un commerce lucratif. Donc il fait un essai grandeur nature de traite des fourrures de loutre en collectant, donc en échangeant plus de 1000 peaux en Alaska et en Californie, des peaux qu'il doit ensuite revendre à Macao, puisque on dit que c'est le marché chinois qui en est friand. C'est une fourrure extrêmement chaude et qui, jusque-là, était quasiment inconnue des Européens. C'est Cook, le premier, qui avait signalé l'existence de ce mammifère. Donc, la Pérouse met en œuvre cet essai. Malheureusement, arrivé à Macao, il se rendra compte que le marché chinois est déjà assez saturé. Et finalement, il aura du mal à vendre ses peaux de loutre. Mais cet essai va être vraiment réalisé par la Pérouse.
Et on revient justement à ce que vous nous disiez au départ, à savoir qu'il y avait aussi une notion économique dans ce voyage.
Oui, c'est pour ça que la Pérouse avait changé son itinéraire. Au départ, il devait commencer par le Pacifique Sud, après le Cap Horn. Et après être arrivé à Hawaï, il a décidé de changer et de monter directement sur cette côte nord-ouest de l'Amérique, car il savait que c'était un des objectifs prioritaires du roi. Et donc il a voulu le remplir en premier lieu, ce qui a fait qu'il a modifié légèrement son itinéraire.
Est-ce que nous poursuivons par Macao ?
Macao, c'est l'endroit, en effet, comme on le voit, où les membres de l'expédition ont acheté des porcelaines. Alors, certainement pour leur usage personnel, beaucoup de porcelaine bleue et blanc, des éléments de vaisselle, hein, des services, mais également de la vaisselle de toilette, hein, vous voyez, des bouteilles, des pots servant pour la toilette, hein, fabriqués spécialement pour les Européens. On se demande quand même, comme il y a eu énormément de porcelaine découverte sur les sites archéologiques, s'ils n'avaient pas acheté également pour faire un commerce. En tout cas, ce n'était pas dans leurs instructions. Mais il est possible que, vu le nombre de pièces collectées, et ce n'ait pas été seulement des achats personnels. Très intéressant, ce service aux armes de la confrérie de Saint-Augustin, de l'ordre de Saint-Augustin. L'abbé de la Boussole, l'abbé Mongès, a été membre de cet ordre, de cette congrégation, et avait très probablement fait réaliser ce service assez simple, hein, des corps bleus et blancs, et avec la réalisation d'armoiries en émail et des gravures. Alors, ça ne se voit pas beaucoup, mais en fait, ces émaux ont été mangés par l'eau de mer et par l'enfouissement sous-marin. Donc, on a juste un vestige où on voit quelques restes, et on voit surtout sur une photo, cette en lumière rasante, ces armoiries. On reconnaît bien le Sacré-Cœur percé avec la mitre d'évêque, etc.
Donc il avait fait
une commande spécifique, comme l'avait fait également Fleuriot de Langle. Mais Fleuriot de Langle, lui, avait fait une commande plus sophistiquée de porcelaine à émaux colorés à ses armes et à celle de sa femme, Georgette de Kerwartz. Et ce service a été renvoyé par un autre biais, c'est-à-dire qu'il l'a fait renvoyer par un navire de la Compagnie des Indes, sans doute après leur départ. Et ce service est aujourd'hui conservé chez les descendants de Fleuriot de Langle. On a ici une assiette de ce service commandée à l'époque à Macao par Fleuriot de Langle.
Alors nous arrivons petit à petit en Russie, extrême orientale, au Kamchatka, c'est oui. Ça, c'est difficile à dire, où là il y a Jean-Baptiste Barthélemy de Lesseps qui va rentrer en France par les voies de terre et qui va rapporter donc une grande partie des collections que l'on peut voir ici en partie.
Oui. Tout à fait, Barthélemy de Lesseps était l'interprète de russe de l'expédition. Il était prévu dès le départ qu'il rentrerait en France à peu près au milieu du voyage. Donc là, nous sommes en septembre 1787. Et donc, ça fait 2 ans qu'ils sont partis de France. Au Kamchatka, donc, il débarque, un peu à regret, parce que c'était un très jeune homme. Il avait environ une vingtaine d'années, 19 ans quand il est parti. Et il s'était très bien entendu avec l'ensemble des membres de l'expédition. Tout le monde l'appréciait beaucoup. Il aurait beaucoup aimé rester. Mais la Pérouse a insisté pour qu'il rentre, comme c'était prévu, avec une grande partie des documents. Et par exemple, on a ici une carte extraordinaire, une carte qui montre l'ensemble des côtes et des zones traversées entre Macao et le Kamchatka. Et on y voit surtout une des grandes avancées apportées par la Pérouse au niveau de la cartographie, c'est cette côte de Sibérie, aujourd'hui Sibérie russe. À l'époque, ça s'appelait la Tartarie, et il avait pour mission de cartographier. C'était le premier à cartographier cette côte, parce que Cook, qui avait été tué en 1779, n'avait pas eu le temps en fait, d'aller jusque-là. Et donc, tous les membres de l'expédition étaient très contents parce qu'ils avaient enfin quelque chose à faire que le capitaine Cook n'avait pas fait avant eux. Et la Pérouse a découvert un détroit entre l'île de Sakhalin et l'île d'Hokkaido qui s'appelle aujourd'hui détroit de la Pérouse. Et c'était le premier à le découvrir, le premier navigateur européen.
Après cette escale donc au Kamchatka, nous arrivons à un moment qui ne me semble pas très heureux, puisqu'il y a Fleuriot de Langle qui est tué.
En effet, la Pérouse a reçu l'ordre, il a reçu au Kamchatka des lettres, pour une fois, car ils en reçoivent très peu pendant la durée du voyage, mais au Kamchatka, la Pérouse a reçu un ordre de Fleuriot qui lui enjoint de vraiment changer son itinéraire pour aller observer la première colonie anglaise qui va être installée sur la côte est de l'Australie.
Donc faire ce qu'on appelle...
Faire un peu d'espionnage, en quelque sorte. Donc pour rejoindre l'Australie, de toute façon, il devait aller dans le Pacifique Sud, bien sûr, depuis le Kamchatka, mais pas forcément à cet endroit-là précisément, au moment où on lui demande d'y aller. Il traverse donc le Pacifique d'une traite, en presque 70 jours, et doit faire escale aux îles Samoa, pour faire là aussi du ravitaillement en eau, en bois, en vivres frais. Et lors d'une descente à terre, Florio de Langle, qui est avec une cinquantaine d'autres membres de l'expédition, est attaqué par des indigènes qui se sont massés sur le rivage. On ne sait pas exactement pourquoi c'est arrivé, mais ils sont attaqués à coups de pierre et 12 membres de l'expédition sont massacrés ainsi. Et ceux qui assistent à ce drame sont obligés d'embarquer à bord des canots au plus vite, de laisser les morts et d'emporter les blessés comme ils le peuvent. Et évidemment, ça se passe en décembre 1787. La Pérouse en est extrêmement affectée, comme tous les autres membres de l'expédition. Mais il ne réplique pas, c'est-à-dire qu'il suit en cela les ordres de Louis XVI et ne va pas se venger de la mort de ses compagnons. Également aussi pour ne pas prendre plus de risques, ça on le sait parce qu'il le dit dans son journal et dans ses lettres, puisque c'était un endroit assez dangereux au niveau de la navigation, donc il ne pouvait pas s'approcher de l'endroit où s'est passé le drame.
Ils étaient en terre inconnue.
Voilà. Donc il repart de là pour aller vers l'Australie, la mort dans l'âme, on peut le dire. Il le dit d'ailleurs dans les derniers courriers qui sont parvenus. La dernière lettre à son ami Fleurieux, organisateur de l'expédition, parle en très grand détail de ce drame et du fait qu'on ne peut pas faire confiance à des populations dont on ne connaît pas très bien les mœurs et qu'il ne faut pas écouter les philosophes qui ont dit que ces populations étaient innocentes dans l'âge d'or, etc. Enfin, c'est tout ce que Diderot a pu écrire. Bien là, la Pérouse dit « Mais attention, ces gens n'ont jamais voyagé. Moi, je sais ce que c'est que voyager, qu'être confronté à ces populations. »
Une amertume où, justement, il y a, je crois, donc à ce moment-là, des dissensions, des petits soucis d'entente entre la Pérouse qui pense que, justement, ces indigènes ne sont pas forcément des êtres supérieurs, comme le pense une partie de l'équipage qui pense que ce sont des êtres supérieurs, en tout cas très évolués, parce qu'ils sont fins connaisseurs de la nature.
Oui, c'est un des motifs de discorde avec le philosophe, physicien, naturaliste Lamanon, le chevalier de Lamanon, qui malheureusement, lui aussi, a trouvé la mort lors de ce drame. Et donc la Pérouse, qui ne l'appréciait pas plus que ça, on le voit dans les courriers qu'il envoie au roi, enfin essentiellement au ministre et à Fleurieux, eh bien là, il dit le malheureux Lamanon, il a été massacré lui aussi, alors qu'il disait que hier encore, combien ces populations étaient douces. Donc voilà, il y a vraiment une aigreur, une amertume qui se fait jour, en plus d'une certaine fatigue. Au bout de 2 ans et demi de voyage, la Pérouse écrit dans une lettre à l'un de ses amis qu'il n'a plus ni dents ni cheveux. Cette lettre aujourd'hui n'est plus localisée. Elle était chez les descendants de l'une des sœurs de la Pérouse au XIXe siècle. Elle a été recopiée et c'est la lettre à son ami banquier Le Couteux où il dit « Je n'ai plus ni dents ni cheveux, tu ne me reconnaîtras pas, j'ai l'air d'être un vieillard de 100 ans ». Et là, il prévoit de rentrer en France en juin 1789.
Avec quand même un grand pressentiment, il se doutait que quelque chose allait se passer.
Peut-être. En tout cas, on sent qu'il y a à la fois cette amertume et puis aussi presque un désespoir à la fin d'une grande partie de ce voyage, après avoir perdu de nombreux compagnons dans des circonstances souvent difficiles.
Donc, ils font escale après cet incident, à Botany Bay, en Australie.
Oui, ils rencontrent les Anglais. Et c'est là aussi que meurt le deuxième abbé de l'expédition, le père receveur, celui qui était à bord de l'Astrolabe, qui avait été blessé lors de la descente à terre aux Samoa. Il meurt là et donc sa tombe aujourd'hui se trouve toujours à Botany Bay puisque la Pérouse l'a fait enterrer à terre. Et nous avons dans cette partie de l'exposition quelques objets extraordinaires puisqu'ils sont très rares dans ce contexte de marine et de découverte. Nous avons des objets religieux utilisé à bord par les aumôniers, notamment cette pierre d'autel en plusieurs morceaux, retrouvée sur l'épave de la boussole à plusieurs années d'intervalle. Une pierre d'autel, on sait qu'à bord des navires du roi, il y avait bien sûr un autel, que la messe était célébrée régulièrement, mais nous n'en avions pas de témoignage précis dans les collections du musée. Et vous voyez là une pierre avec les croix qui marque bien vraiment son usage et sa fonction.
Le 10 mars 1788, c'est le dernier moment où on a des nouvelles d'eux. Ils partent justement de Botany Bay.
Ils partent de Botany Bay. En fait, les dernières lettres sont écrites en février, puisqu'il y a un temps, en fait, elles sont remises aux Anglais, mais il n'y a pas des contacts en permanence avec les Anglais. Donc les dernières lettres envoyées par l'expédition sont datées de début février, alors qu'en fait, ils vont rester un mois encore à Botany Bay. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la flotte anglaise qui installait cette première colonie, qui va devenir Sydney, qui est la ville aujourd'hui de Sydney, ont observé aussi, ont rencontré les Français, on parlait de l'état dans lequel ils étaient. Donc c'est très intéressant, cette documentation. Et on a la chance de présenter dans l'exposition une lettre de Leopold Dagelet à son homologue britannique, l'astronome de l'expédition de Philippe, de colonisation, où il parle d'aspects très techniques, d'astronomie. Comment doit-il installer l'observatoire? Comment caler le quart de cerf pour l'observation des astres? Et donc, nous avons ce courrier qui a été envoyé à l'astronome britannique, qui aujourd'hui est conservé à la bibliothèque de Sydney.
Et un des derniers courriers
L'un des derniers courriers, là aussi, où d'ailleurs, il est daté du 3 mars, celui-ci. C'est vraiment l'un des derniers. Et Dagelet, il dit que la Pérouse ne le laisse pas, en fait, aller voir son comparse, puisqu'il se trouve en mauvaise santé. Donc on sent que la santé des équipages commençait à se détériorer au bout de 2 ans et demi de voyage. Il y avait certainement des symptômes de scorbut, alors que la Pérouse avait réussi à éviter ça pendant toute la première partie du voyage. Là, on arrive quand même à un degré de fatigue et d'usure, aussi bien des navires que des hommes.
Le 10 mars 788, donc dernier jour où on a des nouvelles d'eux.
Et alors on les voit partir.
Et alors on lance des recherches qu'après la Révolution française, c'est-à-dire après 1789.
Pendant, en fait, oui, après le déclenchement de la Révolution, ouais. Qui va empêcher beaucoup, en fait, cette Révolution qui survient va empêcher qu'on s'occupe plus, en fait, de ce pauvre La Pérouse et de ses compagnons. Et c'est seulement en 1791 que l'Assemblée nationale lance une expédition de recherche qui, malheureusement, sera infructueuse. C'est l'expédition d'Entrecasteaux. D'Entrecasteaux trouvera la mort, en fait, de maladie pendant la durée du voyage. Son second, Huon de Kermadec, aussi. Ils vont passer, en fait, au large d'une petite île dans l'archipel des Santa Cruz, qui est, on le sait aujourd'hui, oui. L'île où a fait naufrage La Pérouse. Mais ils vont juste relever la côte et ils ne s'arrêtent pas. Donc il y a enfin tout un concours de circonstances qui font que cette expédition est très malheureuse et est totalement infructueuse. Et c'est seulement en 1826 qu'un navigateur irlandais, Peter Dillon, va être mis sur la voie du lieu du naufrage qu'il découvrira l'année suivante, au bout de 38 ans. Et c'est l'île de Vanikoro, donc dans l'archipel des Santa Cruz, aux îles Salomon, Pacifique Sud, qui est aujourd'hui à nouveau sous les feux de l'actualité, puisque une nouvelle expédition de recherche va y être envoyée.
Nous sommes devant les premiers objets qui ont été remontés à la surface.
Alors ces objets que vous voyez remis en place sur un monument commémoratif, en fait ce monument avait été installé au musée naval du Louvre en 1829, juste à l'arrivée de ces objets. Ces objets n'ont pas été remontés à la surface, en fait ils ont été collectés par ce navigateur Peter Dillon, lorsqu'il a découvert cette île de Vanikoro, dans les villages, il a trouvé ces objets en fer qu'il a échangés, qu'il a achetés aux indigènes. Et ces objets avaient été collectés déjà par les indigènes eux-mêmes sur les épaves des navires. Et ce qui est très intéressant, c'est que Peter Dillon recueille les témoignages oraux de ces populations qui ont, pour certains, été témoins des naufrages, puisque les deux navires ont fait naufrage. Et il lui indique qu'il y a bien deux navires qui sont restés sur l'île, l'un qui s'est échoué et l'autre qui a fait naufrage. Et ça correspond tout à fait à ce qu'on a découvert aujourd'hui, hein, donc la boussole qui se trouve dans la faille et l'astrolabe échoué sur la fausse passe.
Eh bien, si vous voulez, avançons jusqu'aux maquettes, ici, il me semble, qui représentent, je crois...
Alors, nous avons une maquette qui représente de manière un petit peu imaginaire le camp que les survivants du naufrage ont installé à terre. Et ce camp, les vestiges en ont été découverts en 1999.
Donc finalement, ça restait encore un mythe, une légende.
Presque une légende. Peter Dillon en avait eu l'intuition, puisque les populations lui en avaient parlé. Et il avait même pu localiser l'endroit près d'un village nommé Paillou, à côté de la rivière de Paillou. Et ce camp devait se trouver là. Seulement, Peter Dillon, lui, ne s'était pas vraiment rendu, ou n'avait pas eu le temps de mener suffisamment de recherches. Et donc, c'est seulement en 1999, en s'appuyant sur ces récits, qu'on a découvert un certain nombre d'objets. Là, vous voyez vestiges de pieux d'une palissade, également des fragments d'instruments scientifiques. Il y a un superbe pied de roi, un instrument de mesure complet qui a été découvert, des morceaux de bouteilles, de vaisselle, des éléments également d'une méridienne, un canon de méridienne, et également des éléments d'optique, d'une lunette, certainement. Donc tous ces éléments-là prouvent qu'il y a réellement eu une installation des Français dans cette zone de Paillou. La seule chose, c'est que le site a été extrêmement perturbé et déjà fouillé par les Britanniques dans les années 1920, donc perturbation importante. Et le problème également, c'est que la nappe phréatique est très proche de la surface et empêche de mener des fouilles suffisamment approfondies. Ce qui fait que ce camp à terre est quand même relativement peu documenté, même si on a la preuve qu'il a existé. Dans ce camp, les survivants, d'après ce qu'en disent les autochtones à Peter Dillon, ont probablement construit un navire à l'aide de ce qu'ils avaient pu sauver de leur propre navire et de ce qu'ils allaient collecter sur l'épave de l'astrolabe.
Donc je suppose qu'ils étaient bons charpentiers ?
Oui, puisqu'il y avait des charpentiers à bord, bien sûr, de chacun des navires pour les entretenir. Donc forcément, il y avait des compétences et ils ont très certainement, en tout cas la tradition orale le dit, construit un navire de secours qui serait parti pour essayer, bien sûr, d'échapper à cette île qui, par ailleurs, est assez peu hospitalière, puisque c'est une île couverte de jungle, avec un climat extrêmement humide, beaucoup d'insectes. Donc c'est vraiment quelque chose assez insalubre, encore aujourd'hui, bien sûr. Et donc, ils auraient échappé à cette île, mais pour aller où ? Là, le mystère plane encore, puisqu'on ne le sait toujours pas. Et peut-être que des recherches futures trouveront
Des restes, des vestiges,
des descendants peut-être des Français. Enfin, il y a encore énormément de passionnés qui sont à la recherche de cela. Alors, les dernières recherches ont permis aussi de mieux identifier les épaves, en tout cas de confirmer leur identification.
Car jusqu'à présent, nous ne savions pas où était la boussole et où était l'astrolabe, qui était qui.
Il y avait quelques présomptions malgré tout, puisque dès 1964, et les recherches menées par Rhys-Discombe, mais également les navires de la Marine nationale qui sont revenus sur les sites, on avait découvert le site de la faille. Jusque-là, on n'avait qu'un des deux sites, celui de la fausse passe, où est l'astrolabe, on le sait aujourd'hui. Et la faille a été découverte dans les années 60. Et donc, on y avait déjà découvert des instruments, notamment les fragments du quart de cercle de Langlois, qui étaient, on le savait par les archives, embarqués à bord de la boussole. Et dans les recherches récentes, et notamment en 2005, on a découvert là aussi, sur la faille, ce magnifique instrument presque complet, enfin presque complètement conservé. C'est un sextant en ébène et laiton, signé de Mercier. Mercier était un fabricant d'instruments à Brest pour l'Académie de marine au XVIIIe siècle. Et ce sextant, il figure nommément dans les listes, un sextant du sieur Mercier, liste d'embarquement de la boussole. Donc il confirme encore, il vient confirmer l'identification de cette épave. On a également ce fragment, mais assez émouvant, puisqu'il est conservé sur une petite partie seulement, d'une lunette astronomique, dont les restaurations ont montré qu'elle était signée de Dollond, un fabricant anglais. Alors, c'est un instrument qui avait peut-être été acheté par Monneron, l'ingénieur de l'expédition, lorsqu'il avait mené sa mission en 1785, d'espionnage, et également d'achat d'instruments et de marchandises d'échange.
Nous arrivons au terme de cette exposition qui se termine alors par un élément particulier, qui se termine par un squelette.
Oui, alors ça c'est la grande découverte de 2003, un squelette complet qui a été découvert par les archéologues à l'intérieur de la faille, dans l'une des parois, et que nous avons choisi de présenter dans l'exposition avec énormément d'informations pour le public expliquant les tentatives d'identification et les recherches menées autour du squelette. Donc plusieurs laboratoires ont mené des études. Donc il faut traverser la reconstitution de la faille que nous avons faite pour l'exposition pour arriver devant ce squelette et voir donc des images vidéo qui expliquent les recherches par deux laboratoires. Le laboratoire de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, puis plus récemment, le laboratoire d'anthropologie des populations du passé qui se trouve à Bordeaux. Et les deux analyses menées par ces deux laboratoires ont montré qu'il s'agissait donc d'un homme, d'un homme européen, un Européen âgé d'une trentaine d'années, et ce qui permet d'avoir un faisceau de présomptions pour son identification, mais pas de l'identifier complètement. C'est peut-être l'un des aides-chirurgiens embarqués à bord de la boussole mais ça pourrait également être 3 ou 4 autres personnes. En tout cas, ce qu'on en sait, c'est que cet homme est mort pendant le naufrage, ça les analyses l'ont montré, et qu'il est resté en fait emprisonné, il était dans une chambre pendant ce naufrage, ce qui laisse penser que ce n'était pas un des marins, un des membres de l'équipage, mais plutôt l'un des scientifiques, et donc peut-être l'un des chirurgiens. Les scientifiques étant connus, on connaît leur âge, mais aucun ne correspond vraiment à ce profil d'un homme d'une 30aine d'années, à part le chirurgien.
C'est voilà. Incroyable le travail d'enquête qu'il y a derrière pour essayer de retrouver ici, bien sûr, le nom de cette personne,
oui.
mais tout au long en fait, de ces fouilles archéologiques.
Oui. On est vraiment là en face d'une sorte de puzzle, on essaie de reconstituer l'histoire du naufrage qui a pu être restituée, et un film d'animation en 3 dimensions permet de revivre le naufrage de la boussole qui a pu être mieux expliqué grâce aux découvertes archéologiques. On a pu comprendre que la boussole s'était retournée, qu'elle avait perdu son gouvernail et qu'elle s'était donc encastrée dans cette faille sous-marine sur le récif de l'île de Vanikoro. Ça, c'est un des apports de l'archéologie, mais ils sont bien plus nombreux encore que cela, et l'exposition cherche à montrer au public tout ce qu'on peut raconter autour de ce mystère de la disparition de la Pérouse.
Eh bien, je vous remercie, Hélène Tromparent-Dessène, de nous avoir accordé tout ce temps pendant lequel nous avons parcouru l'exposition, un peu rapide, hein, bien sûr, parce qu'il faudrait passer beaucoup plus de temps, cette exposition ici, donc, au Musée national de la Marine à Paris. Nous invitons, bien sûr, nos internautes, auditeurs, à venir ici à Paris pour visiter cette exposition qui a lieu jusqu'au 20 octobre, c'est ça ?
Tout à fait.
20 octobre 2008, précisons-le. Peut-être souhaitiez-vous rajouter quelque chose ?
C'était un très, très beau projet qu'on a mené donc, en collaboration avec l'association Salomon, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, Michel Lourd, Elisabeth Vera, et également le musée de l'histoire maritime de Nouméa, qui nous a fait profiter de ces merveilleux objets.
Et je précise bien sûr que nous faisons référence au site de l'association Salomon sur notre site internet canalacademy.com. Merci beaucoup.
Merci.
Et puis à une prochaine fois pour une prochaine expédition ou même une prochaine exposition.